Panorama Afrique. Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Conflit dans l'est de la RDC, le procureur de la CPI est arrivé dans la nuit à Kinshasa, tandis que les pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé trois anciens dirigeants africains pour être les facilitateurs d'un processus de paix. Premières élections sénatoriales de l'histoire du Tchad, dernière étape de sa transition politique. Le Kremlin salue la position équilibrée de Washington après son vote à l'ONU sur l'Ukraine. COP 16, les discussions sur la biodiversité reprennent à Rome avec la mobilisation des ressources au centre des débats. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Les pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé trois anciens dirigeants du Kenya, de l'Éthiopie et du Nigeria pour être les facilitateurs d'un processus de paix en RDC où le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé la nuit dernière, Jacques Aristide.
Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre d'Éthiopie, sont nommés facilitateurs du processus de paix de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe dans la région orientale de la République démocratique du Congo, écrivent les deux blocs dans un communiqué conjoint publié hier soir. Les trois facilitateurs africains auront notamment pour objectif un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, l'accès de l'aide humanitaire et la sécurisation de l'aéroport de Goma, la grande ville de l'Est congolais. Une réunion ministérielle est prévue vendredi pour travailler sur les détails du cessez-le-feu, ajoute le communiqué. Aucun effort diplomatique n'a jusqu'ici abouti pour mettre un terme aux hostilités. Quant au procureur de la CPI, Karim Khan, il est arrivé la nuit dernière dans la capitale congolaise, Kinshasa, insistant sur l'inquiétude de son institution. Un message très clair doit être passé. Aucun groupe armé, aucune force armée, aucun allié d'un groupe armé ou d'une force armée n'a de chèque en blanc, a-t-il déclaré. Les populations de la RDC sont aussi précieuses que celles d'Ukraine, d'Israël ou de Palestine, que les filles et femmes d'Afghanistan, a-t-il ajouté. Pretoria indique ce mardi que des soldats sud-africains gravement blessés ont été évacués de Goma où 14 de ses militaires ont été tués depuis le début de l'année dans l'avancée du groupe armé M23 et de troupes du Rwanda.
Les premières élections sénatoriales de l'histoire du Tchad ont eu lieu ce mardi. C'est la dernière étape de la transition politique entamée après le putsch militaire qui a suivi la mort du président Idriss Déby Itno en avril 2021. Plus de précisions avec Jean-Roger Bion.
Au total, 124 candidats issus de 16 formations politiques participent à ce scrutin indirect organisé à la mairie de N'Djamena, la capitale, quelques semaines après des élections législatives. Le Conseil constitutionnel a confirmé fin janvier la victoire du parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut, avec une majorité écrasante de 124 sièges sur 188 pour ses premières élections parlementaires organisées depuis 2011. Porté au pouvoir par la junte, le fils du président défunt Mahamat Idriss Déby Itno, 40 ans récemment promu au grade de maréchal, a obtenu un mandat présidentiel de 5 ans en mai 2024 lors d'un scrutin boycotté par l'opposition et qualifié par des ONG internationales de non libre ni crédible. Le Parlement bicaméral a été institué en 2020 par une réforme constitutionnelle votée à l'Assemblée nationale qui créait un Sénat chargé de la représentation des collectivités autonomes, disposition ensuite confirmée par la nouvelle Constitution adoptée en décembre 2023. Les résultats des sénatoriales sont attendus en fin de journée.
En Somalie, plus de 70 membres du groupe islamiste radical Shebab ont été tués lors d'une opération de l'armée aidée par des forces locales dans l'État somalien d'Irshabelle, a annoncé le ministère de l'Information. Liés à Al-Qaïda, les Shebab combattent depuis plus de 15 ans le gouvernement fédéral de Somalie, soutenu par la communauté internationale pour instaurer la loi islamique. En Mauritanie, le parquet a requis hier 20 ans de prison ferme contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, jugé depuis novembre en appel à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Le procureur général de la cour d'appel a reproché à l'ex-chef d'État d'avoir mis à profit sa fonction pour des intérêts personnels. Monsieur Aziz a, je cite, « transformé la présidence en un bureau pour exercer le chantage sur les investisseurs », a-t-il dit dans son réquisitoire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants des 27 États membres de l'UE se réuniront mercredi en visioconférence pour un débriefing de la rencontre centrée sur l'Ukraine entre Emmanuel Macron et Donald Trump à Washington. Les deux dirigeants ont affiché des différences marquées dans leur approche de l'Ukraine. Alexandrine Holonian.
En préparation du Conseil européen extraordinaire du 6 mars, j'organise une visioconférence des membres du Conseil européen, a annoncé ce mardi sur X Antonio Costa, qui dirige le Conseil européen. Depuis l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 12 février, les Européens tentent d'élaborer une réponse aux échanges entre Américains et Russes, dont ils ont pour l'instant été exclus. Lors de sa rencontre avec son homologue américain à la Maison-Blanche, le président français a déclaré qu'un accord de paix ne pouvait signifier une capitulation de Kiev. Il a aussi insisté sur la nécessité d'apporter des garanties de sécurité pour éviter que le président Vladimir Poutine ne repasse à l'attaque. Le président Donald Trump, de son côté, a dit espérer que le conflit prendrait fin dans les semaines à venir et que le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendrait bientôt aux États-Unis pour signer un accord permettant à l'Amérique d'avoir accès aux minerais essentiels de l'Ukraine. En parallèle de la rencontre à Washington, à l'ONU, les États-Unis ont rejoint la Russie et la Corée du Nord pour voter contre une résolution réaffirmant le soutien à l'Ukraine et à son intégrité territoriale.
La Chambre américaine des représentants se prononce aujourd'hui sur une résolution budgétaire, une feuille de route sur comment mettre en place le programme de Donald Trump, mais qui fait face à des dissensions du camp républicain. La COP16, grande conférence environnementale des Nations Unies, a entamé ce mardi 3 jours de prolongation à Rome pour dénouer le blocage nord-sud sur le financement de la sauvegarde de la nature. Pour la présidente colombienne du sommet, il s'agit de la mission la plus importante de l'humanité au XXIe siècle. John Lyndon.
En ouverture de ces assises, la ministre colombienne Susana Muhammad, présidente de cette 16e conférence de la Convention sur la diversité biologique, a rappelé que ce qui est en jeu est la mission la plus importante de l'humanité au 21e siècle, c'est-à-dire notre capacité à soutenir la vie sur cette planète. Face à elle, quelques 300 représentants de 154 pays. Dès les premières prises de parole, le Brésil, au nom de plusieurs pays émergents riches en biodiversité, et le Zimbabwe pour le groupe Afrique, ont rejeté le compromis proposé par la présidence pour éviter la répétition de l'échec des négociations en Colombie. Début novembre, la COP16 s'était conclue à Cali sans régler une vive dispute entre pays riches et en développement sur leur collaboration pour débloquer l'argent nécessaire afin de stopper la destruction de la nature d'ici 2030. Cet objectif, fixé en 2022 dans l'accord de Kunming-Montréal, s'accompagne d'une feuille de route de 23 objectifs à atteindre dans la décennie destinée à protéger la planète et ses êtres vivants contre la déforestation, la surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives. L'objectif FA prévoit de placer 30% des terres et des mers dans des aires protégées d'ici 2030 contre environ 17% et 8% actuellement selon l'ONU.
La conférence de dialogue national syrien qui s'est tenue ce mardi au palais présidentiel à Damas à l'initiative des autorités a jugé les groupes armés en Syrie comme étant hors la loi dans sa déclaration finale. Dans ce texte, les participants appellent à ce que le monopole des armes soit aux mains de l'État, à construire une armée nationale professionnelle et à considérer toute formation armée en dehors des institutions officielles comme des groupes hors la loi. Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a proposé mardi que l'Égypte assume la responsabilité de la bande de Gaza pour 8 ans, une fois la guerre terminée, en échange d'un allègement massif de sa dette. L'ancien premier ministre israélien s'exprimait devant un cercle de réflexion à Washington. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
La production de cacao en Côte d'Ivoire pour la saison 2024-2025 est en passe de rester autour du niveau décevant de la saison dernière après des conditions météorologiques et de culture défavorables, a déclaré le ministre de l'Agriculture du pays. Kobeina Kwasi Adjumani a déclaré que les pluies récentes avaient amélioré les perspectives pour la récolte intermédiaire d'avril à septembre qui suit la récolte principale d'octobre à mars. La Sierra Leone sonne l'alerte sur la drogue Kush. Des analyses révèlent ce mardi qu'elle contient des opioïdes synthétiques dangereux. Face à cette menace grandissante, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déclaré en avril dernier l'état d'urgence nationale en matière de toxicomanie. Il a également appelé à une répression accrue contre cette drogue qui sévit également dans au moins 5 autres pays d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement du Botswana a signé ce mardi un accord de vente de diamants longtemps retardé avec De Beers, une unité d'anglo-américaine. En 2023, les deux parties se sont provisoirement mises d'accord sur les conditions sous le président précédent du Botswana, mais elles n'ont jamais officiellement signé d'accord. Le nouveau président Duma Boko, arrivé au pouvoir en octobre dernier, a fait de la signature de l'accord avec De Beers une priorité.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Suite aujourd'hui des matchs retour du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine.
Oui, 3 matchs au programme, Égypte-Rwanda, Algérie-Soudan du Sud et Mali-Gabon. La Gambie et le Bénin ont passé ce premier tour. Les Gambiennes qui avaient battu les Nigériennes 2-0 à l'aller ont remis ça cette fois-ci 2-1 face aux Nigériennes. Pour notre consultant Amdine Sy, les Scorpions montent en puissance.
C'est une qualification logique des Gambiennes qui sont en train de faire du bon travail quand même au niveau de cette compétition féminine. Mais le plus dur reste à faire puisque ce n'est qu'un premier tour maintenant. Il va falloir sortir le grand jeu lors de ce second tour qui sera très très relevé.
Amdine Sy, consultant sportif. Les Béninoises, elles aussi, ont fait mieux que sauvegarder leur avance de 2-1 du match aller face à la Sierra Leone, encore battu 3-1. Pour Élisée Mpatin, le plus dur reste à venir pour les Béninoises.
Au prochain tour, ce sera très très difficile, plus difficile même que la Sierra Leone, puisque c'est l'équipe la plus titrée dans cette compétition. Eh bien, le Nigeria, le voisin nigérian. Donc, les Béninoises vont affronter les Nigérianes. Ce sera un derby de la sous-région, un derby frontalier entre deux pays qui se connaissent très bien, puisque il faut le dire, dans notre championnat, il y a plusieurs joueuses nigérianes.
Élisée Mpatin, consultant sportif.
Basketball, ici en NBA, Philadelphie ne répond plus et l'état de santé de Joel Embiid suscite des interrogations.
Les Philadelphia Sixers ont perdu pour la 8e fois d'affilée, humiliés à domicile par Chicago, 142-110, de quoi être hués à plusieurs reprises par leurs fans. Les espoirs nés du trio Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George ont fait long feu et la situation au classement est grave, 12e à l'Est. Plusieurs médias américains ont indiqué que la franchise étudiait l'option d'une nouvelle et lourde opération pour tenter de soigner le genou gauche qui fait toujours souffrir Embiid, laissé en tribune hier. Interrogé sur une possible fin de saison pour le pivot camerounais MVP en 2023, « Nous n'en sommes pas du tout là », a rétorqué l'entraîneur Nick Nurse. De leur côté, les Detroit Pistons ont enchaîné un 7e succès d'affilée face aux Los Angeles Clippers, 106-97, leur meilleure série depuis 10 ans. Le triple MVP serbe Nikola Jokic a encore mené les siens à la victoire sur le parquet des Indiana Pacers, 125-116. Jokic a inscrit 18 points, pris 9 rebonds et distribué 19 passes décisives.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Togo, le hacking éthique, encore appelé le test d'intrusion légale, émerge comme une solution indispensable pour contrer la cybercriminalité. Contrairement aux cybercriminels, cette catégorie de hackers utilise leurs compétences pour détecter les failles de sécurité et protéger les systèmes informatiques. On les compte encore sur le bout des doigts, mais leur rôle est déterminant pour garantir la pérennité et la réputation des entreprises à long terme. Reportage de notre correspondante Amène Assignon à Lomé.
Hacker au parcours atypique, Boaz Kodjo est un autodidacte qui s'est pris de passion pour les technologies. Électrotechnicien à la base, il s'est reconverti et porte aujourd'hui la casquette de spécialiste en sécurité des applications et testeur d'intrusion ou hacker éthique. Son rôle est de tester les systèmes informatiques afin de déceler les éventuelles failles sécuritaires avant que des criminels ne les exploitent et ensuite faire des recommandations. Pour nous montrer de quoi il s'agit, Boaz a tenté d'infiltrer un système informatique. Ce dernier a révélé des failles sécuritaires vulnérables avec des informations sensibles mises à nu que les cybercriminels peuvent facilement exploiter à des fins de vol d'identité.
Tout le serveur est à ma merci, je peux uploader des fichiers également dessus.
Contrairement aux hackers malveillants, les hackers éthiques agissent avec l'autorisation des entreprises. Ils utilisent les mêmes techniques que les cybercriminels, mais dans un cadre légal.
Actuellement, c'est beaucoup plus les attaques par ransomware qui sont en train de monter en flèche depuis des années. Et avec l'avènement de l'IA, les attaques par phishing.
Au Togo, l'usage de l'Internet et de la digitalisation des entreprises connaît une croissance rapide. Toutefois, cette transition vers le numérique s'accompagne de nouveaux risques. L'augmentation des transactions en ligne, la gestion des informations sensibles, l'usage massif des services cloud rendent les entreprises vulnérables aux cyberattaques.
Il ne suffit pas d'utiliser les données des gens, mais il faut forcément les protéger. Et les risques qu'ils peuvent encourir quand vous êtes face à une violation, c'est qu'il y a des risques financiers qui vont intervenir, il y a des risques réputationnels qui vont intervenir, et il y a des risques juridiques aussi aujourd'hui, tant que vous êtes sur un territoire qui est assez réglementé.
Conscient des enjeux liés à la cybersécurité, le gouvernement togolais a mis en place un cadre réglementaire et un certain nombre de dispositifs pour protéger les infrastructures essentielles. En l'occurrence, l'Agence nationale de la cybersécurité, le Centre national de gestion des incidents, l'organe opérationnel CDA Cyber Défense Africa. Ce dernier promeut entre autres la formation des jeunes aux nouvelles compétences comme le hacking éthique, une compétence peu répandue.
On parle de la digitalisation, donc il y a plusieurs produits, il y a plusieurs services qui se digitalisent. Donc il faut qu'il y ait des compétences pour pouvoir tester la robustesse de ces différents équipements ou infrastructures informatiques. Et de l'autre côté également, ça permet d'être prêt aux nouveaux challenges de l'avenir. Aujourd'hui, vous savez, on parle de l'IA.
Bien qu'encore sous-exploité au Togo, le hacking éthique intervient comme une pratique efficace pour anticiper les menaces et renforcer la sécurité des systèmes d'information. Un impératif pour les entreprises qui minimisent la portée de la cybersécurité. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM. Le président Donald Trump affirme qu'il est proche d'un accord avec l'Ukraine et la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine après une journée remplie de réunions à la Maison-Blanche avec le dirigeant français Emmanuel Macron. Donald Trump a exhorté l'Europe à jouer un rôle plus important et Paris a fait pression pour obtenir plus d'assurance de la part de Moscou. De la Maison-Blanche, Anita Powell nous en dit plus. Récit d'Illidico.
Un bref accueil, puis le président français s'est attelé à la tâche lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec pour objectif de mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président Donald Trump a insisté sur son désir de conclure un accord pour mettre un terme à ce conflit qui a marqué lundi son troisième anniversaire. Il a déclaré que cela inclura un accord avec l'Ukraine pour ses minerais essentiels, un accord qui pourrait être signé dès la semaine prochaine par le président ukrainien, a-t-il laissé entendre.
Il y a une grande méfiance de part et d'autre. C'est pourquoi c'est une bonne chose que je sois là maintenant. Mais je pense qu'il est tout à l'avantage de la Russie de conclure un accord et de continuer à diriger la Russie de manière positive. C'est ce qu'il faut faire. Mais je crois vraiment qu'il faut conclure un accord. Je peux me tromper, mais je crois qu'il veut conclure un accord.
Le président français Emmanuel Macron s'est montré plus circonspect, rectifiant Donald Trump dans le bureau ovale lorsqu'il a déclaré que l'Europe soutenait l'Ukraine en lui accordant un prêt avant de faire part de la méfiance à l'égard de Moscou.
Mon point fort était de dire, essayons d'abord d'obtenir quelque chose qui puisse être évalué, contrôlé et vérifié, et assurons-nous que nous obtenons des garanties suffisantes à court terme. Et c'est là que nous sommes prêts à nous engager.
Les analystes ont parlé de ce que les deux dirigeants ont réellement accompli lors de leur rencontre. William Pomerantz est chercheur principal au Wilson Center.
Il semble qu'ils se soient mis d'accord pour que des soldats de la paix européens fassent respecter la paix entre la Russie et l'Ukraine. Il y a beaucoup d'autres questions secondaires sur lesquelles je n'ai pas pu me pencher. Mais oui, il y a des tentatives d'accord de paix et d'utilisation des soldats de la paix pour faire respecter l'accord entre la Russie et l'Ukraine.
Le président ukrainien a exprimé son espoir et souligné l'importance du rôle de Washington.
Nos équipes travaillent déjà de manière productive avec les États-Unis sur un accord économique et que nous espérons signer à Washington. Et Monsieur le Président Trump, nous aimerions vraiment vous entendre, car tout notre peuple et nos familles sont très inquiets. Y aura-t-il un soutien de l'Amérique? L'Amérique sera-t-elle le leader du monde libre? Et je vais être très honnête avec vous. Pour notre peuple, pour la vie en général, il est très important que le soutien américain, l'assistance américaine demeure.
Le dirigeant russe Vladimir Poutine a déclaré que jusqu'à présent, les discussions n'ont pas été spécifiques. Pendant ce temps en Europe, l'Ukraine a marqué lundi le 3e anniversaire de ce conflit. L'icône la plus célèbre de Paris, la Tour Eiffel, s'est illuminée aux couleurs du drapeau ukrainien.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a expliqué ce week-end les raisons de l'éviction du chef d'état-major des armées, le général Siki Brown. Le président Donald Trump a limogé le plus haut gradé de l'armée américaine vendredi par le biais d'un message sur les médias sociaux. La correspondante de VOA au Pentagone, Carla Babb, nous donne plus de détails. Récit Lionel Gaïma.
Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a balayé les inquiétudes selon lesquelles le limogeage par le président Donald Trump du patron de l'armée américaine, le général C.Q. Brown, pourrait être considéré comme une incursion de la politique dans l'armée. M. Hegseth s'est exprimé lors de l'émission télévisée Fox News Sunday.
C'est le reflet de la volonté du président de s'entourer des bonnes personnes pour mettre en œuvre l'approche de la sécurité nationale que nous voulons adopter. J'ai beaucoup de respect pour C.Q. Brown. J'ai appris à le connaître au cours d'un mois. C'est un homme honorable, mais ce n'est pas l'homme de la situation.
Lors de sa campagne électorale, Donald Trump s'est engagé à éliminer de l'armée ce qu'il appelle les idéologies « woke » et à licencier rapidement de nombreux hauts responsables. Un objectif partagé par Hegseth dans un podcast avant sa nomination au poste de secrétaire à la Défense.
Tout d'abord, il faut virer le chef d'état-major.
En 2022, alors que Brown était chef d'état-major de l'armée de l'air, il a copublié un mémo demandant les objectifs de recrutement des officiers de l'armée de l'air soient basés sur la race et le sexe, dans le but d'obtenir une force qui, selon le mémo, serait plus représentative des États-Unis. Luis Caldera a été secrétaire d'État de l'armée de terre sous l'administration Obama.
Punir des hauts responsables militaires parce qu'ils ont été nommés par l'administration précédente ou parce qu'ils ont appliqué les politiques de l'administration précédente, tout comme on s'attendrait à ce qu'ils appliquent les politiques de l'administration actuelle, c'est tout simplement inadmissible.
En plus du renvoi de Brown, Hegseth a démis le chef des opérations navales, l'amiral Lisa Franchetti, le vice-chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Jim Slife et des juges de l'armée. Luis Caldera, secrétaire d'état de l'armée de terre sous l'administration Obama.
Il n'échappe à personne qu'ils ont renvoyé le seul Afro-Américain et la seule femme à avoir servi au sein de l'état-major interarmé.
Pete Hegseth a fait de la létalité la priorité absolue de l'armée, affirmant que la force de l'armée ne réside pas dans sa diversité, mais dans son unité.
Notre force réside dans notre objectif commun, indépendamment de nos origines, de la façon dont nous avons grandi, de notre sexe et de notre race.
Monsieur Hegseth se rend mardi à Guantanamo Bay, à Cuba, pour voir les installations militaires américaines où sont détenus les sans-papiers. Le ministère de la Sécurité intérieure y détient 17 immigrants dans des installations militaires. L'administration Trump a détenu des dizaines d'autres migrants à Guantanamo avant de les expulser.
Pape François, 88 ans, hospitalisé dans un état critique avec une double pneumonie, a signé un décret de canonisation. Le Vatican assure ce matin que le pape s'est bien reposé toute la nuit au 12e jour de son hospitalisation, après avoir fait état hier d'une légère amélioration. Des nouvelles rassurantes alors que l'état de santé du pontife argentin suscite l'inquiétude à travers le monde. Des prières sont organisées partout pour son rétablissement. Yacouba Ouedraogo fait le point.
Devant l'hôpital de Gemelli à Rome, où le pape François est hospitalisé avec une double pneumonie, des membres de la communauté vietnamienne prient pour lui. Sur la place Saint-Pierre, des centaines d'autres personnes participent à une prière pour la santé du pape François, ainsi que pour les malades, dirigée par le secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican, le cardinal italien Pietro Parolin.
Nous le confions à la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie que nous invoquons spécialement sous le titre de Marie, santé des malades. Qu'elle, notre mère attentive, le soutienne en ce moment de maladie et d'épreuve et l'aide à recouvrer rapidement la santé.
À des milliers de kilomètres du Vatican, des centaines d'Argentins ont assisté lundi à une messe à ciel ouvert à Buenos Aires, dédié à leur compatriote, le pape François. Les fidèles se sont rassemblés sur la place de la capitale où, lorsqu'il était archevêque, le pape François présidait les célébrations en dénonçant inégalité et injustice.
C'est son symbole. C'est ici, sur la place de la Constitution, qu'il a toujours célébré la messe. Et ici, il y a plus de gens qui vivent dans la rue et c'est ici qu'il a toujours célébré la messe. Je pense que c'est l'endroit idéal pour célébrer une messe en son honneur et pour prier pour sa santé.
Brandissant des drapeaux argentins et des pancartes souhaitant un prompt rétablissement à Jorge Bergoglio, ses fidèles argentins ont prié, participé à l'Eucharistie et scandé « Viva el Papa Francisco, vive le Pape François » sous la direction de l'archevêque de Buenos Aires, José Ignacio García Cuerva. En Afrique, des prières se multiplient pour la guérison du pape François, comme ici au Kenya. Les fidèles ont assisté à un service spécial à la basilique de la Sainte Famille de Nairobi, où ils ont prié pour le bien-être du souverain pontife.
Maintenant que le pape est malade et avec toutes les nouvelles que nous recevons sur sa santé, nous remercions Dieu qu'au moins malgré tout cela, il soit dans des cœurs sûrs, qu'il soit à l'hôpital et surtout qu'il soit dans les cœurs sûrs de Dieu. Ma prière est qu'il se rétablisse. Ayant été berger pendant toutes ces années, il a beaucoup à nous apporter.
Le pape François avait été initialement hospitalisé le 14 février pour une bronchite, mais celle-ci a évolué en pneumonie. Le Vatican a annoncé qu'il a reçu lundi la visite de son secrétaire d'État, le cardinal italien Pietro Parolin, et de Mgr Edgar Pinapara, respectivement numéro 2 et numéro 3 du Saint-Siège. Au cours de cette visite, la première depuis son admission à l'hôpital, le pape a autorisé la canonisation de deux laïcs du Venezuela et d'Italie et convoqué une assemblée des cardinaux dont la date n'a pas été précisée.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique, bien sûr.